Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte à tirer des médias suivants. Capot Diamant et Curium. Au programme, La Terre du Chien et Cupidon est un chimiste. Bonne écoute.
Le sable, ressource précieuse surexploitée. Un texte d'Annie Labrecque paru le 12 juillet 2022 dans le magazine Québec Science. Le sable est l'ingrédient de base d'une myriade de matériaux. On le croyait inépuisable, mais on pourrait bientôt en manquer. Negril, en Jamaïque, a tout d'un paradis. Mer turquoise, kilomètres de plage, falaises photogéniques, complexe hôtelier chic, chaises longues qui vous appellent. Mais ce n'est pas pour profiter du soleil que le chercheur Pascal Pétouzi s'y trouvait en 2012. Il essayait plutôt de comprendre ce qui provoquait l'érosion des côtes. Son équipe avait été mandatée par le gouvernement jamaïcain pour se pencher sur le phénomène, car celui-ci menaçait les plages et donc le secteur touristique. Avec ses collègues, il a rapidement trouvé l'origine du problème. Des villageois rapportaient que des gens armés allaient sur la plage la nuit pour ramasser du sable. Je me suis demandé comment on pouvait en venir aux armes pour voler cette ressource, confie le professeur du département F.A. Forel des sciences de l'environnement et de l'eau de l'Université de Genève. Après l'eau, le sable est la ressource naturelle la plus exploitée de la planète. Il est indispensable dans la fabrication du béton et de l'asphalte, qui accapare le plus gros de la demande. Il sert à produire du verre, des fenêtres, des panneaux solaires, des puces électroniques, des microprocesseurs et bien plus encore. Tant et si bien qu'on estime la consommation mondiale de sable à environ 18 kg par personne par jour ou 50 milliards de tonnes annuellement. C'est énorme. C'est comme si l'on construisait un mur de 27 mètres sur 27 tout autour de l'équateur terrestre, chaque année, s'exclame Pascal Pédouzi. Son séjour à Negril a changé la trajectoire de ses recherches. La protection du sable est devenue son cheval de bataille. 2 ans plus tard, il soulignait dans une étude à quel point la quantité de sable extrait de la nature met en péril les écosystèmes marins et côtiers et à quel point la ressource est plus rare qu'on ne croit. On ne peut pas extraire, transporter et utiliser un tel volume sans effets environnementaux et sociétaux massifs, indique celui qui est également directeur du programme des Nations Unies pour l'environnement, GRID Genève, PNUE, GRID Genève. Au menu, érosion du littoral, perte de biodiversité, résistance moindre aux catastrophes naturelles. La demande exponentielle qui dépasse le renouvellement naturel du sable expose les pays à une pénurie à l'échelle mondiale. Déjà, en 2005, l'Institut d'études géologiques des États-Unis s'inquiétait des pénuries de sable dans le pays. La demande de sable s'est accélérée sur la planète dans les dernières décennies en raison des besoins grandissants en infrastructures, routes, barrages, bâtiments, des sociétés industrialisées. La Chine consomme à elle seule environ 56% de la quantité de sable et de gravier dans le monde. Elle a utilisé en 3 ans autant de sable que les États-Unis en 100 ans, affirme Pascal Pédouzi. Le chercheur craint d'ailleurs qu'un scénario similaire survienne sur le continent africain, où l'on prévoit un accroissement exponentiel de la population, dont une grande proportion migrera des campagnes vers les villes. Les villes africaines accueilleront ainsi 950 millions de personnes en plus d'ici 2050. Le sable est même employé pour agrandir des villes. Singapour a gagné plus de 20% en superficie grâce au sable, donne en exemple Pascal Pédouzi. ce sable supplémentaire a été majoritairement pris en Malaisie et en Indonésie, mais ces pays ont arrêté les exportations en constatant les problèmes environnementaux occasionnés par son extraction sur leur territoire. Singapour est ensuite allé en chercher dans des pays voisins. Le grain idéal. Les fines particules de sable se forment très lentement, pendant des dizaines de milliers d'années. La plupart sont le fait de l'érosion des roches transportées par la pluie, le vent, les rivières et les glaciers des montagnes vers les étendues d'eau. La forme, la taille et la composition des grains sont donc très diversifiées d'un endroit à l'autre, comme la plage ou le fond d'une rivière. C'est ainsi qu'on peut trouver du sable noir, rose, blanc ou brun, selon les différents minéraux présents dans l'environnement. Les ressources en sable ne sont pas uniformément réparties sur la planète. Les endroits montagneux en possèdent davantage que d'autres, qui peinent à s'en procurer. La pénurie de sable se fait déjà sentir dans des États insulaires, comme les Maldives, qui disposent de très peu de cette ressource, mentionne Pascal Peduzzi. Ils ont besoin de sable pour construire des protections côtières afin de contrer la hausse du niveau des mers et doivent s'en procurer ailleurs que chez eux. De plus, tous les sables ne se valent pas. Même si les déserts comme le Sahara nous semblent être d'immenses réserves, ils ne font pas partie de la solution. Leurs grains, à force de se heurter constamment sous l'effet du vent, s'arrondissent. Si ce sable est inséré dans un mélange de béton, la forme des grains fait en sorte qu'ils ne se lient pas bien entre eux, détaille Patrick Lajeunesse, professeur de géographie à l'Université Laval. Vous écoutez « Le sable, ressource précieuse surexploitée », un texte d'Annie Labrecque paru le 12 juillet 2022 dans le magazine Québec Science. Lorsque les compagnies minières ne peuvent extraire la précieuse matière des carrières, elles se tournent vers les rivières et le fond des mers. D'après les estimations de Pascal Peduzzi, de 3 000 à 5 000 navires aspirent du sable près des côtes. Ce sable marin possède des bonnes propriétés de rugosité et d'angularité pour une intégration dans les matériaux. Pour construire des bâtiments aussi élevés que la tour Burj Khalifa de Dubaï, il est nécessaire d'avoir du béton de haute performance et de qualité et, pour cela, il faut du sable marin et non pas du désert, illustre Damien Pham Van Bang, professeur et spécialiste en hydrodynamique et transport sédimentaire à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS. Ironiquement, la ville de Dubaï, qui s'étend sur une petite partie de l'immense désert Rub al Khali, a dû aller chercher son sable de construction en Australie. Plus fou encore, il existe une mafia du sable. Ce commerce illégal de la ressource a été signalé dans plus de 70 pays, selon une étude publiée en mars dernier dans Nature Sustainability. Les gouvernements doivent cartographier les zones où il est possible de prendre du sable et celles où ça ne l'est pas, pour en contrôler la qualité, mais aussi sécuriser des emplois, souligne Pascal Peduzzi. Cela fait d'ailleurs partie des recommandations du rapport 2022 du PNUE Sand and Sustainability, 10 Strategic Recommendations to Avert a Crisis, qui invite les pays à mieux surveiller l'utilisation du sable et les lieux d'extraction. Les enjeux sont clairs. Prenons l'exemple de l'extraction de sable en Indonésie, souvent effectuée de manière illégale. Elle a mis en péril une centaine d'îles indonésiennes. Cette opération a eu d'importantes répercussions sur l'environnement, observe Damien Pham Van Bang, dont l'érosion côtière et une perte de biodiversité. Ces régions sont également plus exposées aux inondations et risquent de voir leurs nappes phréatiques contaminées par l'eau salée, ce qui ruine l'approvisionnement en eau potable. Pourrait-on se passer du sable? Des chercheurs planchent sur diverses solutions, notamment la valorisation des déchets. Dans un rapport publié au mois d'avril, un groupe de scientifiques de l'Université de Genève et de l'Université du Queensland a examiné s'il était possible de récupérer les déchets miniers d'une exploitation de fer du Brésil pour en extraire du sable. Cette mine de fer doit entreposer des dizaines de milliers de tonnes de résidus par année. En étudiant l'aspect physico-chimique de ces résidus, on s'est aperçu qu'ils étaient en grande partie composés de sable, décrit Pascal Pidouzi, qui a participé à la rédaction de ce rapport. Pour transformer les résidus en sable minerai ou ore sand, on doit passer par une série d'étapes: flottaison, séparation, filtration. La forme de ces grains est à mi-chemin entre ceux du sable concassé et ceux du sable marin, ce qui permet une intégration dans l'industrie de la construction. C'est très intéressant autant du point de vue économique que sur le plan écologique. On peut même purifier davantage ces matériaux pour atteindre une haute qualité de sable et en faire du verre, ajoute M. Pedouzi. Cendres et sciure. Pourrait-on élargir cette stratégie à d'autres mines? De quoi faire d'une pierre deux coups? D'après les estimations, l'industrie minière rejetterait de 30 à 60 milliards de tonnes de déchets miniers par année. Il faut toutefois effectuer une analyse physico-chimique de chaque site, car le potentiel dépend du minerai extrait. Parmi les autres avenues possibles pour remplacer le sable, Pascal Pedouzi nomme les cendres résiduelles de la combustion des déchets ainsi que la sciure de bois qui pourrait entrer dans la composition d'un béton léger qui flotte sur l'eau. Ce sont par contre des solutions à petite échelle, souligne-t-il. Au Québec, Louis-César Pasquier, professeur à l'INRS, qui se spécialise dans les technologies de captage du CO2, a effectué des travaux pour réutiliser les résidus de construction et ceux de démolition du béton. Le sable peut être extrait de ces matériaux avec des méthodes de séparation physique. On évite ainsi d'aller chercher cette ressource en milieu naturel, dit-il. Dans tous les cas, le spectre d'une pénurie mondiale de sable représente un éventail de pistes à explorer, d'après Damien Pham Van Bang. Cela doit nous encourager à nous diriger vers le recyclage, la réutilisation de matériaux ou la recherche d'autres matériaux. Il faut revisiter nos pratiques afin de les adapter et de les rendre plus respectueuses de l'environnement, plaide-t-il. Si les plus grandes tours de ce monde sont considérées comme des chefs-d'œuvre architecturaux, il les voit sans conteste comme un symbole de la pollution mondiale et de notre consommation effrénée de sable. C'était « Le sable, ressource précieuse surexploitée », un texte d'Annie Labrec, paru le 12 juillet 2022 dans le magazine Québec Science. Le parc des Hautes-Gorges, un texte de Florence Rouleau, paru en décembre 2022 dans Reflet, volume 39, numéro 2. L'autrice est conseillère en relations avec les médias à la CEPAC. Au cœur de la région de Charlevoix se trouve un havre naturel spectaculaire. Tirant son nom des multiples montagnes découpées en vallées profondes, le parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie dessine dans le paysage charlevoisien les plus hautes parois depuis l'est des Rocheuses. L'importance des dénivelés, la beauté des paysages et le tracé particulier de la rivière Malbaie font de ce site un lieu enchanteur. Ce parc national a en plus le privilège d'être l'une des aires centrales de la réserve de la biosphère de Charlevoix. Pendant la saison des flocons, la vallée des glaces se transforme en un paysage grandiose où de nombreux adeptes de plein air accourent. Les racketteurs peuvent profiter d'un réseau de 11 sentiers balisés totalisant 52 kilomètres. Vous êtes plutôt adepte de ski nordique, ce sont plus de 50 km de sentiers non tracés ni damés, mais balisés, qui vous permettront de découvrir la mythique vallée. Un incontournable hivernal du parc national des Hautes Gorges de la rivière Malbaie est la navette des glaces. Cette navette de 16 passagers relie le centre de service Le Draveur au secteur de l'Équerre. Une façon aisée d'y accéder et de découvrir ce secteur bucolique enneigé. En raquette ou en ski nordique, les possibilités de parcours à partir de ce secteur sont nombreuses. Envie de passer une nuit dans l'arrière-pays? Niché à 8 km du centre de service Le Draveur, le pavillon de l'Équerre est le parfait hébergement pour s'initier à l'expérience de refuge. Justement qualifié de refuge de luxe, ce pavillon de 4 chambres est équipé d'électricité et d'eau courante, en plus d'offrir l'essentiel pour cuisiner. C'est le camp de base rêvé pour l'exploration d'un secteur moins connu et plus reculé du parc national. Accessible en raquette, en ski, en vélo à pneus surdimensionnés ou à bord de la navette des glaces, cet hébergement offre quiétude et ressourcement pour un séjour loin de tout. Le temps d'un week-end hivernal, évadez-vous au cœur du pays de Meneaux, là où le temps s'arrête, mais où le spectacle continue. C'était « Le parc des Hautes-Gorges », un texte de Florence Rouleau, paru en décembre 2022 dans « Reflets », volume 39, numéro 2. Où en est la révolution promise par la fausse viande? Un texte de Billy F., paru le 25 janvier 2023 dans Urbania. Avec la pandémie, de plus en plus de gens ont fait le choix de limiter ou arrêter complètement leur consommation de viande. Notre sensibilité face au changement climatique est à son pic et nous sommes conscientes que notre amour de la chair animale a son rôle à jouer. Pourtant, il semble que la fausse viande ne nous intéresse pas tant que ça non plus. Depuis l'introduction en bourse de Beyond, leader dans ce secteur alimentaire, le prix de ses actions a dégringolé de près de 93%. La compagnie a renvoyé 20% de ses employés et près de la moitié de ses cadres, mais a également mis sur glace des projets de recherche et développement, incluant celui de la saucisse à hot dog vegan. Si Impossible se porte légèrement mieux, reste que ce segment de produits recule en popularité et a enregistré des baisses de vente en 2022. Alors, où en est cette fameuse révolution? Un futur sans viande. Si vous avez déjà été végétarien-végétarienne, vous savez qu'on vit probablement dans la meilleure ère pour le devenir. La plupart des restaurants, fast-food et cantines proposent maintenant des alternatives végé. Non, pas juste du champignon grillé ou des galettes de végé pâté peu alléchantes. Des croquettes qui rappellent vraiment le poulet ultra transformé et même de la fausse viande faite à partir de protéines de pois qui goûtent le bœuf. Ça fait des années que l'on parle de cette révolution de la fausse viande comme la révolution alimentaire du siècle pour réduire l'énorme empreinte carbone causée par l'élevage de bétail. Lorsqu'en 2019, Beyond a été introduit en bourse pour près de 4 milliards de dollars, ce fut la plus grande entrée depuis la crise de 2008. Cette nouvelle technologie a piqué l'intérêt de grands et grandes investisseurs-investisseuses comme Leonardo DiCaprio, Tyson Foods, le plus grand transformateur de vraie viande au monde, et même Bill Gates qui a aussi investi dans Impossible, le compétiteur de Beyond. Mais malgré tout l'engouement suscité par cette nouvelle manière de manger, le public n'est simplement pas au rendez-vous. Récemment, la firme Deloitte identifiait quelques-uns des problèmes de cette industrie tout en offrant des explications. L'alimentflation. Si chez vous, C'est vous qui achetez la bouffe, inutile de vous rappeler que tout coûte plus cher, et ce pour une variété de raisons qu'on s'amuse à recenser depuis 3 ans. Le coût des aliments, en particulier, a drastiquement augmenté, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les compagnies de fausse viande. Étant encore à leur début, celles-ci chargent un prix fort pour leurs produits car elles ont besoin d'argent pour produire plus et mieux. En avril dernier, un rapport de l'Université de Dalhousie relevait que la fausse viande coûtait en moyenne 38% plus cher que la vraie viande, malgré l'explosion des prix de la viande. De plus, la guerre en Ukraine a affecté la chaîne d'approvisionnement en matières premières de fausse viande, soit les pois, le blé, le soya et les patates. Si plusieurs non-végétariens, végétariennes se disaient prêtes à payer un peu plus pour de la fausse viande il y a quelques années, il est difficile de leur demander la même chose dans une période d'inflation où chaque centime compte. Selon les consommateurs-consommatrices, quitte à devoir payer plus cher, ce serait pour de la vraie viande d'excellente qualité. Le but d'Impossible, Beyond et Comparses est d'un jour arriver à vendre leurs produits au même prix, voire moins cher que la viande traditionnelle. Et si le coût de la viande continue d'augmenter, peut-être que cela arrivera plus tôt que prévu. Pour l'instant, convertir le public à un produit plus cher en période d'inflation reste compliqué. Vous écoutez « Où en est la révolution promise par la fausse viande ?» Un texte de Billy F. paru le 25 janvier 2023 dans Urbania. L'offre rattrape la demande. La théorie initiale de Beyond et Impossible était que le jour où le prix et le goût de la fausse viande seraient comparables à celui de la vraie, les gens arrêteraient de consommer de la viande animale. Mais au Québec, comme partout en Amérique du Nord, notre attachement à la viande est culturel. Notre relation avec le poulet, barbecue, les burgers, le bacon et le steak n'est pas anecdotique. Elle est imbriquée dans le tissu de notre identité. Et le fait que les dirigeants, dirigeantes de ces compagnies n'aient pas su identifier cette complexité dès le début prouve que ces personnes ne sont pas issues du monde de l'alimentation, mais bien de celui des sciences, de la technologie. En ce sens, Impossible et Beyond sont des compagnies de tech et sont évaluées ainsi, de la même manière que McDonald's est avant tout une compagnie immobilière et que Starbucks est essentiellement une banque. Les avancées dans le goût de la viande artificielle ont eu une influence sur sa popularité, mais des experts estiment que le segment de la population ouverte à consommer et acheter régulièrement ces produits est peut-être déjà saturé. En 2022, le nombre de consommateurs-consommatrices qui en achètent parfois n'a pas augmenté, restant à 47%. Et, selon Deloitte, l'autre 53% qui n'en achète pas pourrait être difficile à joindre, en partie à cause de la résistance culturelle à un produit qui pourrait être vu comme étant « woke ». Il n'y en aura pas de facile. Le Washington Post identifie également un argument de vente qui, pour certaines, pourrait être un obstacle. On dirait de la vraie viande. Il est donc possible que les personnes qui ne consomment pas de viande pour des raisons éthiques et morales soient dégoûtées par quelque chose qui se rapproche de la chair d'animal mort et préfèrent opter pour des légumes ou un aliment moins ultra-transformé qu'une galette Impossible. La situation est semblable à quelqu'une qui aurait une grande conscience de l'environnement. La mise en marché d'un pick-up électrique ne les poussera pas nécessairement à s'en acheter un, si les modes de transport actifs et en commun font déjà partie de ses habitudes. Malbouffe à base de plantes. Le terme « à base de plantes », autrefois associé au segment « santé » de l'agroalimentaire, est utilisé pour tout et pour rien ces jours-ci. Il a perdu de son lustre en devenant un terme « marketing ». Mais, comme le rapporte Deloitte, cette perception du public est en train de changer et même chez les adeptes de fausse viande, l'aspect santé semble perdre du terrain. En 2021, 68% des consommateurs-consommatrices de viande alternative croyaient qu'elle était meilleure pour la santé que celle animale. En 2022, cette proportion a baissé à 60% et un regard de plus en plus critique est posé sur sa composition. Idem du côté de la perception de la durabilité qui a baissé de 5% l'an dernier. Selon les consommateurs-consommatrices, quitte à devoir payer plus cher, ce serait pour de la vraie viande d'excellente qualité. Si les galettes de fausse viande ont envahi les menus de fast-food en 2021, la plupart de ces articles véganes ont vite été retirés soit par manque d'approvisionnement, soit parce que les ventes n'étaient juste pas au rendez-vous. McDonald's, qui s'était associé à Beyond pour créer le McPlant, ne vendait que 20 sandwichs par jour dans les magasins qui l'offraient. Tim Hortons, qui avait tenté avec les produits Impossible et Beyond, a retiré les saucisses végé de ses sandwichs. Une porte-parole expliquait à Reuters que la chaîne pourrait continuer d'offrir des alternatives à base de plantes dans le futur, mais que l'option avait été retirée car le produit n'a pas été adopté par nos clients comme nous l'espérions. Tout ça n'est pas pour dire que la viande artificielle est vouée à l'échec. La technologie continuera de s'améliorer. Les entreprises auront assez d'argent pour mieux contrôler leur chaîne d'approvisionnement et de production, et on verra de plus en plus de compétition dans le secteur. C'est peut-être le calme avant la tempête pour cette industrie qui pourrait dès maintenant se mettre à changer les habitudes alimentaires d'une nouvelle génération. Mais ça, ça prend toujours du temps. C'était « Où en est la révolution promise par la fausse viande ?» Un texte de Billy F. paru le 25 janvier 2023 dans Urbania.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vizivoire.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Jocelyne Langevin à la lecture, Anne Hébert et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.